le petit fakir.
Tout le monde a lu ce petit journal.
Bizarre.
Il se le passe.
Pour ne pas dire étrange.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique?
Le petit fakir n'a jamais peur du pire.
Bizarre.
Voilà. Séance photo obligatoire, campagne pour la présidence du MEDEF oblige, Laurence Parisot n'hésite pas à forcer sa nature plutôt discrète. C'est avant tout une femme d'ambition. À 45 ans, elle est à la tête de deux entreprises, mais il en faut plus pour l'effrayer.
Je suis tombée dans l'entreprise comme toute petite, comme Obélix est tombée dans la marmite de potions magiques. Je suis petite fille d'industriel, quatre fois nièce d'industriel.
Héritière d'une des plus riches familles de France, elle ne reprend pas l'entreprise de meubles de ses parents. Elle, c'est dans les sondages qu'elle fera carrière.
Laurence Parisot, donc femme discrète, femme qui se présente comme donc une petite fille d'industrielle, une travailleuse, une femme qui aime les entreprises et les PME. Et puis il y a toute une partie de Laurence Parisot qu'on ne connaît pas, ce qui s'appelle dans ce dossier donc la face cachée des Parisot.
Oui, en fait, je suis tombé donc dans mon coin, dans la Somme. Un jour, il y avait des licenciements dans une boîte, et la boîte s'appelait Parisot Siège de France. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir le délégué syndical, comme ça, d'abord, pour suivre son histoire. Il s'était fait licencier quatre fois de la boîte, il avait été quatre fois réintégré par l'inspection du travail. Et donc, je lui demandais, mais Parisot, c'est Parisot de Laurence Parisot. Il dit, oui, c'est son père qui était directeur, et puis il y avait ses quatre oncles et tout ça, c'est eux qui étaient les patrons là-dedans. Et c'est eux qui vous ont licencié quatre fois, quatre procédures, quatre licenciements abusifs pour dire de virer le seul délégué syndical qui bougeait dans la boîte. Et oui, c'est bien ça. Donc je me suis dit, cette boîte avait la réputation d'être la pire boîte du coin, dans le Val de Nièvre, qui est pourtant pas un coin de feignant, quoi, qui a une vallée difficile où on travaillait dans le textile jusqu'au milieu des années 70. Et là, cette boîte qui fabriquait des meubles pour Ikea, Conforama et ainsi de suite avait la réputation d'être la pire boîte du coin. Donc je me suis dit, tiens, quel est le lien avec Parisot exactement?
Laurence Parisot, on va prendre les auditeurs d'RMC avec Emma Strack. Emma.
Et avec cette question de François, pour commencer, des salariés vont jusqu'à se suicider parce qu'ils ne supportent plus la pression que leur impose leur travail. Que proposez-vous pour éviter ces situations dramatiques?
Les suicides
au travail
c'est absolument affreux. Alors, c'est pas facile à dire ce que je vais dire, mais même si ça se passe sur le lieu de travail, ce n'est pas toujours lié à des facteurs liés au travail.
Professionnel.
Une conception un peu étrange des conditions de travail. Donc si on revient un petit peu plus en détail sur les conditions...
Cette archive, parce que là, elle nous dit que finalement, les suicides au travail ne sont pas liés au travail. Bon, il se trouve que dans cette boîte Parisot Siège de France, il y a eu un paquet de suicides que me raconte Agnès, et donc, qui était une salariée, qui disait « j'ai ressenti la peur physiquement » et qui disait... Il y a des gens qui se sont suicidés ici. On a eu un gars qui était persécuté par le chef d'atelier. Et un jour, il nous a dit « Bah, je vais me pendre ». Je lui dis à la cantine « Dis pas ça. Tu dis ça parce que t'es fatigué. Ça va s'arranger. Non, j'en ai marre de cette usine. Je peux plus. » Puis le lendemain, il était bien pendu. Là, ils peuvent dire que c'est de leur faute. Là, il y a José, le camarade, lui, syndicaliste à la CFDT, qui surenchérit et qui dit « Puis il y a le jeune handicapé qui a habité du côté de Gorge. Pourtant, il était courageux et tout. Il voulait absolument garder son emploi. Ils l'ont licencié dans le plan social et le gamin, il s'est suicidé à la maison. Il venait travailler en scooter malgré sa jambe. Il tirait des chariots de 500 kilos et tout. » Agnès qui reprend. « Des dépressions, c'était toutes les semaines qu'il tombait comme des mouches. Des femmes, surtout des femmes. José, une femme qui arrive en retard. J'ai mon gamin qui est malade, elle dit. Chef qui lui hurle, mais ton gamin, tu n'as qu'à l'attacher au radiateur. C'est à Freud de parler aux gens comme ça. » Agnès qui reprend, qui conclut. Les deux jumelles, il y en a une qui a voulu suicider, mais elle s'en est sortie. Donc là, ce court dialogue avec deux salariés de chez Parisot, parce que pour moi, c'est un peu ce que j'appelle la naturalisation du social, enfin ce que Bourdieu appelle, il y a plein de gens qui appellent ça comme ça. C'est-à-dire que quand on voit la face polie, lissée, avec tout ce discours bien arrondi, tendre de Laurence Parisot, on n'imagine pas que l'accumulation du capital dont elle bénéficie, du capital social et du capital économique dont elle bénéficie, elle s'est faite par cette violence. violence-là, par cette violence quotidienne de salariés qui arrivent dans l'entreprise avec la peur au ventre, en tremblant, en devant aller voir le médecin pour obtenir des médicaments, pour être calmés avant d'entrer dans l'entreprise, et avec éventuellement le désir de se suicider à la sortie, tellement pour leur SMIC, parce que c'est des gens qui étaient payés au SMIC, tellement pour leurs 1000 euros par mois, eh ben, on les pousse à bout au maximum. Et donc là, dans une boîte qui s'appelle Parizeau, qui a dégagé pendant 25 ans des bénéfices qui sont allés à la famille Parizeau, qui est devenue la 500e plus riche fortune de France, elle est dans les 200-300 plus riches fortunes de France également, et ben voilà de quelle souffrance est extrait centime après centime, euro après euro, chaque jour, le capital de cette famille. Et ça, c'est quand on aperçoit le visage de Laurence Parizeau à la télévision, c'est comme dans les pubs. Hein. Dans les pubs, on vous montre le beau produit, on ne vous demande pas comment il est produit. Quand on voit Laurence Parizeau, on la voit qui parle bien, mais on ne voit pas comment sa fortune, concrètement, s'est produite. Donc c'est cette réalité-là qu'on a voulu remettre sur la figure de Laurence Parizeau.
Réenchanter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver une capacité d'émerveillement, une capacité d'enthousiasme, une curiosité, une gourmandise, tous ces éléments moteurs qui peuvent nous permettre à aller de l'avant, vers l'avenir.
Laurence Parizeau nous fait rêver là quasiment avec, voilà. Avec ce genre de discours.
C'est exactement ce que je vous disais sur tout le langage lissé, poli, qui éclipse toute la réalité sociale qu'il y a par derrière. Alors concrètement, comment s'est faite l'accumulation du capital dans la famille Parizeau? Donc il y a cette boîte qui est rachetée, il y a d'abord une boîte dans les Vosges, à Saint-Loup-sur-Semouse, il y a cette boîte qui est rachetée pour une bouchée de pain vraiment dans la Somme, et où on va recevoir, alors là j'ai les sommes, hein. Ils reçoivent 60,7 millions d'aides pour 1,7 million d'investissements. Donc ils reçoivent 25 fois ce qu'ils misent pour racheter l'entreprise dans la Somme. Pendant à peu près 20 ans, 25 ans, ils vont garder l'entreprise et pressurer les salariés au maximum. Au bout de 25 ans, ils vont plutôt délocaliser en Roumanie à partir du début des années 2000. Des techniciens de la Somme vont installer des machines et puis tout ça dans 4 usines en Roumanie. Et là, à partir de ce moment-là, on se dit, bon, comment on va faire pour vider l'usine sans que ça nous coûte trop cher? Parce que comme on est un gros groupe Parizeau, c'est quand même embêtant. Ils vont nous demander du pognon. Ils savent qu'on a de l'argent. Les salariés vont nous demander de l'argent en sortant. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On procède à ce qu'on appelle de la défaisance. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire qui apparaît et qui dit « Oh chouette, moi j'ai envie de reprendre votre boîte et puis de la faire tourner. Je vais la faire tourner, ça va être bien. » Mais en fait, c'est un faux repreneur. C'est un faux repreneur qui vient dire « Oui, moi, j'ai envie de faire tourner votre boîte. » Il fait comme s'il allait faire tourner la boîte. Il reçoit même de l'argent des Parizeaux, en l'occurrence, là, du conseil régional aussi, pour reprendre la structure. Et puis, au bout d'un an, il dit « Non, c'est pas possible. » Il licencie 100 personnes, il relicencie 100 personnes. Mais à chaque fois que les personnes sont licenciées, là, ils peuvent pas dire « Ouais, mais attendez, vous avez plein d'argent, c'est Parizeau. » Non, ils peuvent pas dire ça parce que le mec qui a repris, il a pas un rond. Donc ils ne peuvent rien réclamer en indemnité. Donc à ce moment-là, ils se retrouvent à poil. Et donc là, les salariés, puisque la boîte a fermé, il y a eu 157 licenciements, ils sont partis vraiment la queue entre les jambes avec pas un rond. Parce qu'il n'y avait pas un rond. Donc maintenant, il y a tout un procès qui est fait. Là, il y a 167 dossiers qui ont été montés, il me semble, pour bien dire que la responsabilité, elle revient aux Parizeau. Mais c'est-à-dire qu'ils sont même réussis à se dégager de leur responsabilité au moment de la fermeture de l'entreprise. Et c'est vraiment ça qui est balèze. Alors là, moi, je me suis rendu dans l'usine au moment où il y a la liquidation du matériel, au moment où on revend le matériel, et où, alors là, c'est le clou du spectacle, ce sont des gens envoyés par Parizeau qui viennent racheter des machines pas chères, parce qu'en plus, on a fait acheter des nouvelles machines pour cette usine dans la Somme, qui ont coûté très cher, qui n'ont jamais été utilisées, des machines qui seront très vraisemblablement réinstallées en Roumanie. Donc là, on voit bien que, bon, c'est une manière de vraiment essayer de gagner sur tous les tableaux.
Le petit fakir.
Tout le monde a lu ce petit journal.
Bizarre.
Il se le passe.
Pour ne pas dire étrange, cette cérémonie d'initiation qui vient de se dérouler en plein XXe siècle.
Le petit fakir n'a jamais peur du pire.
Bizarre.